Voilà, bonjour à tous, on rend grâce. Père Céleste, merci pour la parole de ton Fils, le Christ Jésus. Merci parce qu'elle s'adresse à nous en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. Merci pour cette parole vivante que tu déposes dans nos cœurs, dans nos esprits. Aussi dans nos intelligences, merci de nous éclairer. Merci de cet esprit de révélation que tu places en chacun d'entre nous. Amen. Voilà, donc on voit un thème depuis déjà plusieurs semaines. Jésus est au milieu de nous. Il habite nos cœurs, nos esprits, nos pensées, nos intelligences. Et il y a quelques semaines, je disais, moi, depuis 50 ans, je prends conscience que d'être en Christ, c'est d'être au cœur de la vie, au cœur de l'actualité du monde. Quoi que ce soit qui se passe dans le monde, là où je suis en Christ, là est la réalité, ma réalité. Une autre réalité ce matin qui est la réalité de l'Église. Jésus est au milieu de nous. Il n'y a pas de plus grande chose dans le monde que le projet de Dieu pour les hommes, l'Église. Peut-être que, voilà, comment vous attendez le retour du Seigneur ? Ouais ? Maranatha, il vient bientôt. Ça, c'est le cœur de mon actualité. Attendre des cieux son Fils unique. Peut-être que c'est assez proche. Tous les jours, je me dis, ouais, on est encore un pas encore en avant. Pour moi, la plus grande réalité dans ce monde, c'est la réalité de corps de Christ, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La vie, les agitations des nations ne sont rien en comparaison de l'Évangile et du royaume de Dieu qui se développe et qui s'étend. C'est là la vraie vie. Il y a des églises qui souffrent. Il y a des hommes de Dieu, des familles de Dieu, voilà, qui meurent, qui sont emprisonnés. On a entendu parler en ce moment, RDC, démocratie du Congo, tout le Nord, là, les chrétiens. On disait, Jean-Marc, c'est que des chrétiens ont été décapités il n'y a pas longtemps. Voilà, leur vie est en Dieu. Notre vie est en Christ. Jésus est au milieu de son Église. J'aimerais lire à nouveau un texte avec vous dans l'Apocalypse. Voilà, on va ouvrir des livres que, voilà, qui sont parfois un peu durs à apprivoiser. Apocalypse chapitre 1, les versets 10 à 13. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire un jour de culte, un dimanche matin. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous pourrez lire le reste dans ce premier chapitre de l'Apocalypse. Je fus saisi par l'Esprit. Être saisi par l'Esprit dans l'Église du Dieu vivant le dimanche matin. Voilà, ça a été l'expérience de l'apôtre Jean. J'entendais derrière moi une voix forte. Jésus présent ce matin, au milieu de nous. Pour diverses raisons, ma première année de conversion, à chaque fois que je priais, je fermais les yeux, il y avait la présence de Jésus dans un coin de la pièce, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie d'église, à chaque réunion de prière, je fermais les yeux, je savais que Jésus était là, présent. Voilà, ça n'a pas duré toute la vie, hein. Ça a duré quelques mois, mais avoir cette assurance que Christ vit dans mon cœur, dans mon esprit, il est présent dans l'Église. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux sept églises. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Est-ce que nous sommes un chandelier d'or ce matin? Ouais. L'Église du Dieu vivant. Il y a des chandeliers d'or dans le ciel. Une présence de Christ par son esprit sur la terre. Écrit à cette église d'Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Toutes ces églises sont comme dans un rond en Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Aujourd'hui, ces églises n'existent plus. Moyen-Orient, quelques siècles, et ça s'est accéléré ces dernières années. Chrétiens persécutés, déménagent pour diverses raisons. Au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, le Christ dans sa gloire. Le Christ glorieux. Le Christ crucifié, mais aussi le Christ glorieux, est présent au cœur de son Église. On lit les versets 19 à 20. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Les sept chandeliers sont les sept églises. Écris ce que tu as vu, ce qui est, la situation de ces églises et ce qui doit arriver, qui n'est pas arrivé encore, qui est en cours. Cette plénitude, cette révélation du Christ, quand il reviendra. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est le mystère des sept étoiles, des sept anges, des sept chandeliers d'or, qui sont les sept églises. Il y a une part de l'Église qui est aussi un mystère. Pourquoi ces sept églises n'existent plus aujourd'hui ? Il y a un culte qui a remplacé le christianisme, pas seulement en Orient, mais qui essaye de s'imposer dans le monde. Et puis il y a des conflits. Il y en a eu d'autres dans le monde. Hein. Le communisme, il y en a qui ont plus ou moins disparu. Il y en a d'autres qui sont encore. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite. L'Église est tenue. Ses chandeliers sont tenus dans la main droite du Dieu vivant. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Mystère des sept églises, mais aussi de l'Église universelle. Comment est-ce que vous appréhendez le mystère ? Quand j'avais 18, 20 ans, je me suis dit, ah, je vais essayer de comprendre tous les mystères du monde, étudier toutes les religions, toutes les choses occultes, tout ce que je peux apprendre, je veux l'apprendre, je veux me réveiller, je veux essayer de comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi les choses, qui sont les choses qui doivent arriver. Et puis, je me suis perdu dans toutes sortes de trucs bizarres qui n'ont aucun intérêt. Après, ça n'a pas toujours été facile de s'en débarrasser. Mais voilà, c'était mon chemin. Le mystère des sept étoiles, des sept anges, des sept chandeliers, des sept églises. Le mystère dans le Nouveau Testament, c'est un mot emprunté aux philosophies et aux religions grecques. Il y avait beaucoup de religions à mystère à l'époque. Je ne sais pas si les femmes étaient admises, mais en tous les cas, il y avait beaucoup d'hommes qui se retrouvaient dans des confréries secrètes avec des initiations. On leur disait, voilà, toi, tu vas savoir le secret. On va t'ouvrir le mystère. Je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui des milieux où on pratique ces choses. Une initiation avec des rites, des solennités purificatrices, etc. Le mystère des religions païennes, il en est parlé dans la lettre aux sept églises. Tu as au milieu de toi des gens qui pratiquent telle ou telle religion. Écarte-toi. Dans le Nouveau Testament, le mystère, c'est l'action de Dieu, tenue secrète jusqu'alors fixée du dévoilement. Les choses se dévoilent en partie. L'apôtre Paul dira dans une lettre, vous voyez quelle intelligence j'ai du mystère de Christ. Et puis à un autre endroit, il dira, oui, mais nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaîtrons pleinement que dans le face-à-face. Pour le moment, malgré tout ce que j'aimerais comprendre, connaître, il y a une barrière, il y a une limitation. Il y a des choses que je peux comprendre personnellement, qu'on peut transmettre, il y a ce que vous me donnez, il y a ce qu'on comprend dans les livres, dans l'écriture. Il y a les choses qu'on comprend, puis il y a celles qui nous échappent, qui m'échappent. Et c'est très bien comme cela. Action de Dieu tenue secrète, jusqu'alors fixée du dévoilement, jusqu'à ce que l'Esprit Saint ait préparé les croyants, l'Église, à en recevoir la communication. Il y a une part du mystère qui est cachée, il y a une part qui est publiée, qui est compréhensible, qui est accessible à tous. Mais il y a une part, je ne sais pas. L'apôtre Paul dira, voilà, les choses ont été révélées à l'Église, aux saints apôtres et prophètes de Christ, et puis aux croyants. Nous sommes les dispensateurs, les divulgateurs du mystère de Dieu. Savoir Christ. Quand nous témoignons de Christ, voilà, on est là pour ouvrir chacun, chaque être humain au mystère de Dieu, savoir Christ. Neuf mystères nous sont ouverts, dévoilés dans l'Écriture. Mystère du royaume des cieux, vous vous rappelez la parabole du semeur ? Ça lève, ça lève pas, ça porte du fruit un petit peu, beaucoup. Et puis il y a ceux où il ne se passe rien. Toutes ces paraboles du royaume. Mystère du salut, mystère de la piété, de la foi, de l'Évangile, le mystère de Dieu, savoir Christ, et de son retour. Si vous lisez l'Apocalypse en entier, vous voyez, le mystère de Dieu est accompli en Christ. Le mystère de l'Église, corps de Christ. Les Juifs et les païens sont un seul corps. Et puis l'Église, eh bien, un jour, viendra les noces de l'agneau. L'Église est aussi l'épouse, celle qui est promise à Christ. Mystère de l'enlèvement de l'Église. Depuis 2000 ans, Jésus revient. Et déjà du temps du Nouveau Testament, les apôtres disaient, ne soyez pas troublés par tous ceux qui vous disent, le Christ est là, il n'est pas là, il est revenu, il n'est pas revenu. Continuez à vivre, à avancer. Le mystère des sept étoiles, l'Église, on va continuer à parler. Le mystère de l'endurcissement d'une partie d'Israël pendant le temps de l'Église. Ça aussi, c'est un mystère. Beaucoup de gens ont de la peine à comprendre. Le royaume de Dieu, l'Église, Israël, ouais, pour beaucoup, c'est une tambouille. On tourne, on essaie de comprendre. Il y a des choses à comprendre. Le mystère de l'iniquité, le mystère de celui qui vient, l'abominable, l'adversaire, l'antichrist. Et enfin, neuvième mystère, le mystère de Babylone, prostituée, fausse religion, qui est masquée et puis qui va se redévoiler à la fin des temps. Donc on est peut-être des choses aussi aujourd'hui à comprendre dans ce domaine-là. J'aimerais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 16, les versets 24 à 27. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Voilà, la prédication du Christ est faite aussi pour nous ouvrir à ces différents mystères. Conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. L'histoire de l'Église, c'est aussi un mystère. C'était caché, il s'est révélé. Prions pour que l'effusion de l'Esprit, depuis un peu plus d'un siècle maintenant, se répande sur toute la terre et que des églises se construisent, et puis qu'il y ait un nouveau feu dans le monde. Voilà, pour faire reculer les choses qui ne devraient pas y être, mais qui y sont et qui doivent être reculées. Mystère caché pendant le siècle, manifesté maintenant, une partie révélée dans l'Écriture, les écrits des prophètes, parfois même si c'est difficile à comprendre, d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. On a besoin de l'Écriture. Et puis d'enseignants, voilà, qui expliquent cette Écriture. Si on lit le livre du prophète Daniel, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais là aussi, voilà, c'est là pour nous éclairer. Éphésiens chapitre 3, voilà, on lit quelques textes relatifs au mystère. Éphésiens 3, les versets 8 à 12. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur en lui. Nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il y a un mystère qui était caché de toute éternité. L'incarnation du Christ, sa vie, son œuvre, sont venus pour dévoiler ce mystère. Et ce mystère, voilà, c'est que Dieu a renfermé toute plénitude dans le temps présent en Jésus-Christ et dans l'Église. Tout seul, je ne suis pas grand-chose. Je ne suis qu'un membre, Paul dit le moindre, de toute l'Église. Ensemble, nous avons quelque chose de plus. Nous avons une réalité augmentée. Ensemble, soyons attentifs à nous supporter, à nous aimer, à nous exhorter les uns les autres. Prenez soin, prenons soin les uns des autres. Ensemble, nous sommes plus que simplement ce que nous sommes à titre individuel. J'ai reçu cette grâce d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même faire un effort pour chercher la compréhension, l'ouverture, l'intelligence, mettre en lumière, loin de faire connaître le mystère caché de toute éternité. C'est important, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse de Dieu. Ensemble, nous sommes quelque chose qui nous dépasse. Quand nous nous retrouvons le dimanche matin, c'est comme une flèche, un éclair dans les lieux célestes. Et le monde céleste apprend, y compris les anges. Les anges n'ont pas accès à tout. Ils ont accès à certaines choses au travers de chacun d'entre nous, au travers de l'Église. Au fur et à mesure que l'Église vit, développe, grandit, le monde céleste apprend des choses sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu, sa miséricorde, sa capacité à pardonner. Quand j'étais jeune, le milieu où fréquentait ma maman, beaucoup de dames âgées, des femmes de prière. Mais parfois, voilà, c'est difficile de comprendre les choses. Et puis une fois, il y en a une qui a dit, mais oh, ben Michel, il est perdu. Peut-être bien oui, peut-être bien que non, mais plutôt peut-être bien que non. Comprends pas toujours les richesses incompréhensibles de Dieu. Même quelqu'un qui semble perdu, hein, le Seigneur peut le... et il peut le récupérer. Souvent avec mon petit-fils, il y a des livres, alors il aime lire toujours les mêmes. La brebis perdue. Alors on lit une fois, deux fois, trois fois, après il la lit tout seul. Et puis alors je prends une calculatrice, puis alors je marque 99, puis après je mets 100. La brebis perdue, tu es capable d'aller chercher. Voilà. Même ceux qui sont soi-disant perdus. Que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment. Nous sommes une expression ce matin de la sagesse infiniment variée de Dieu, au travers de ce que chacun d'entre nous est. Alors l'Écriture dit en même temps, il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi-même, et puis en même temps, il faut être pleinement ce que Dieu veut que nous soyons en Jésus-Christ, avec les dons, les talents, les expressions que Dieu nous donne. Nous sommes une révélation de Dieu dans les lieux célestes, chacun pour notre part, dans ce que nous sommes en Christ, en lui. En lui, selon le dessein éternel de Dieu, nous avons la foi, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quelle révolution! quelqu'un nous aime, est capable de nous réparer, de nous faire tenir debout devant lui, pour que nous puissions nous approcher de lui avec confiance. Et on a dans cette lettre de Jean à l'Apocalypse, cette lettre aux sept églises qui ont été, qui ne sont plus. Chacune était une cité florissante, extraordinaire à leur époque, avec des banques, de l'artisanat, des écoles de médecine. Il y en a une qui était spécialiste pour traiter les yeux, à l'époque, une autre qui était spécialiste déjà pour les problèmes psychologiques. Des églises extraordinaires, les sept, voilà, les sept à suivre à quelques kilomètres. Elles ont été, elles ne sont plus. Et puis en même temps, l'histoire de chacune interpelle l'Église de tous les temps, de tous les âges, et nous interpelle encore ce matin. Parce que le vécu spirituel et l'analyse spirituelle qui est faite de cette église nous touche encore aujourd'hui. La lettre aux sept églises, c'est comme un scanner où va être dévoilé le cœur, la spiritualité, l'esprit de ces sept églises. Il y a une structure dans ces sept lettres, tout d'abord une adresse, une salutation à l'ange de cette église. Il y a un des titres de Christ, une de ses manières d'être, une de ses visions extraordinaires du Christ glorifié. Il y a un « je sais », je connais ta position, je sais qui tu es, avec des éloges, des compliments. Il y a aussi des critiques et des reproches. Je sais, tu as des choses formidables, mais tu as aussi des choses que je n'aime pas, dont il faut te débarrasser, qu'il faut changer. Des avertissements. Voilà, si tu ne changes pas, des exhortations, avec cette formule que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je pense que chacun d'entre nous, chaque église locale, chaque milieu ecclésial, chaque milieu confessionnel, l'Esprit parle aux églises. Il essaye de le faire par divers moyens, à charge aussi de les ministères qui sont là, d'être attentifs. Priez pour ceux qui président les églises, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les anciens, les diacres. Il y a besoin de prières pour rester vigilant. Et enfin, chacune a une promesse. Le premier siècle de l'Église, l'Église s'est développée à Jérusalem, ensuite à Antioche, et puis ensuite à Éphèse. C'est la lettre, c'est la première Église qui est citée. L'Église d'Éphèse. Il y a des éloges pour sa pureté, son labeur, sa patience. L'Église qui est intéressante. Il y a des reproches parce qu'elle a abandonner son premier amour. Tout d'un coup, sa réalité, son actualité n'était plus tellement en Dieu. Peut-être elle avait posé d'autres fondements. Une exhortation. Repens-toi, reviens à tes premiers œuvres. Retourne. Convertis-toi. On a travaillé l'année dernière et puis il y a quelques années pour la conversion des églises. Les églises ont besoin de conversion. tout comme les chrétiens. Tous les milieux n'aiment peut-être pas cela. Éphèse, ça veut dire désirer. Mais cette église a été approchée par les Nicolaïtes et a repoussé leur mauvaise doctrine. Éphèse était bouillante comme l'église à ses débuts, ce qui a conduit à l'associer au premier temps l'église. Mais ensuite, elle perd sa flamme, son premier amour. On est au premier siècle. Aucune de ces sept églises n'était parfaite. Tout avait besoin d'être remis en question, d'être secoué, d'être... Chacune avait une religion païenne. À Éphèse, c'est le temple d'Artémis. Puis les gens venaient là à faire toutes sortes de... toutes pratiques. C'était la ville la plus importante de la région. L'église avait été créée par Paul. Et ensuite, ça s'est répandu dans... toute cette région. La promesse faite à Éphèse, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Un retour aux origines. Jardin d'Éden, il y avait deux arbres, il y avait l'arbre de la vie. Cette église est le symbole de ce qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Cette fois, on a cette locution à celui qui vaincra. On a parfois de la peine à se mettre dans la peau d'un vainqueur. Été 76, de manière complètement différente et par des personnes différentes, j'ai reçu trois des promesses de ces sept églises à celui qui vaincra. Donc le message du Seigneur était un peu explicite. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. J'étais 2 ans de conversion et le Seigneur, par 3 personnes différentes, sur un petit mot, à celui qui vaincra. Moi, vainqueur. Pas facile de changer de logiciel. Il faut aller le chercher. Ensuite, il faut l'installer. Il faut le valider. Cliquer dessus, hein, c'est le langage informatique. Cette église, 7 messages à celui qui vaincra dans la même région. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un homme qui pense être vainqueur et qui dit aux autres, vous êtes des losers, des perdants, vous ne m'intéressez pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux récupérer chez vous ? Là aussi, comment est-ce qu'on peut être un vainqueur avec modestie? Alors, c'est les deux extrêmes. Hein. C'est pas forcément facile. Je vous laisse un petit devoir à faire. Quand vous serez chez vous ce soir, cette semaine, vous pourrez relire la lettre aux 7 églises. Voilà, prendre le temps tranquillement de le lire chacun, chacune. J'aimerais vous lire Laodicée. Il n'y a pas d'éloge, il y a des reproches, tiédeur et prétention. Tu prétends que tu peux faire plein de choses, mais... Une exhortation, achète de l'or, mets du collyre sur tes yeux et repens-toi. Laodicée vient du prénom de la femme d'Antiochus II, qui avait conquis la ville en 250 avant Jésus-Christ. Laodicée était une ville de banquiers. Elle était riche, l'argent de ses clients. De même, l'église de Laodicée se croyait riche alors qu'elle ne l'était pas. Elle vendait des vêtements aux riches, était un centre où on soignait les yeux et un centre thermal. Jésus reprend ces éléments en les appliquant négativement à l'église locale. Une église qui pense être riche. Les églises pensent plein de choses. Sans doute ici aussi, au niveau de voilà, notre union de l'église, l'église apostolique, mais c'est vrai pour toutes les autres églises. Les messages sont en même temps pleins d'espérance, pleins de promesses, et puis en même temps, il y a toujours un élément où il dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que tu devrais changer. Laodicée, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Cette promesse extraordinaire aux vainqueurs, à ceux qui auront la fidélité pour aller jusqu'au... Qu'est-ce qui peut me garantir que je pourrai aller jusqu'au bout? C'était un combat dans ma vie pendant des années de me dire, mais Seigneur, voilà, elle est où la garantie? Il y a un pays en guerre en ce moment qui cherche des garanties. Quelqu'un d'assez solide, costaud, pour dire aux autres, vous vous arrêtez là. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me garantit que je pourrai être fidèle? La seule garantie que j'ai, c'est que celui qui me garantit, lui, est fidèle. Le Christ Jésus est fidèle. Il est à la droite du Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Quand moi, je me mets en prière, Jésus prie pour moi à la droite du Père. Ah, quelle chose extraordinaire! Pour la conversion des églises. C'est cette église avait besoin de revenir, retrouver le premier amour. Déjà ne pas le perdre. S'il faut le retrouver, c'est qu'on l'a perdu. Seigneur, que chacun d'entre nous conserve son premier amour. Être aimé de Dieu jour après jour, savoir qu'il est fidèle et qu'il garantit que j'aille jusqu'au bout. On parlera la prochaine fois ce que c'est que un fil à plomb. La lettre à cette église, c'est un petit peu comme un fil à plomb pour faire un mur droit. J'ai fait un petit peu de maçonnerie. Si on veut monter un mur en pierre ou un mur en aglo, voilà, on prend un fil avec une espèce de buse en fond, là, et puis voilà, il faut que ce soit... La lettre à cette église, c'est un fil à plomb. C'est une image. Et comment l'Esprit-Saint peut, avec l'Écriture, faire que je sois un homme, une femme, dans la droiture, dans la justice. Père Céleste, merci de nous accompagner par ta parole, par cette bonne nouvelle de l'Évangile. Merci de nous faire miséricorde, merci d'être la garantie que chacun d'entre nous n'abandonnera pas son premier amour. Seigneur Jésus, c'est vrai, on a chanté tout à l'heure, mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Merci pour ta fidélité. Amen.